Chapitre 4. Fédic, deux visions. 1. Regardez un peu comme tout brille ici. La dernière fois que nous sommes venus, Fédic était morne et sans ombre, mais il y avait une raison à cela. Ce n'était pas le véritable Fédic, mais un substitut Vahadash. Un lieu que Mia connaissait et se rappelait bien, tout comme elle se rappelait l'allure du château où elle se rendait souvent avant que les circonstances, en la personne de Walter Odim, lui donnent un corps physique, et qu'elle pouvait par conséquent recréer. Aujourd'hui, cependant, ce village déserté est presque trop éclatant pour nos pupilles, mais nous verrons sans doute plus clairement lorsque nos yeux s'y seront habitués, après la pénombre de tonnes foudre et le passage sous le cochon du sud. Chaque ombre est tranchante, comme si on l'avait découpée dans du feutre noir et déposée sur l'Ogan. Le ciel est d'un bleu éclatant, sans un nuage. L'air est frais et vif. Le vent gémissant sous les toits des bâtisses vides et dans les fortifications de Château Discordia est automnal et étrangement replié sur lui-même. À l'arrêt, dans la gare de Fédic, attend une locomotive atomique, ce qu'on appelait un surmoteur chez les grands anciens, portant de chaque côté l'inscription « Esprit de Topeka ». Les vitres de la cabine de pilotage profilée sont presque opaques, recouvertes du sable du désert qui est venu les fouetter pendant des siècles. Mais cela a peu d'importance. L'esprit de Topeka a fait son dernier voyage. Et même lorsqu'il circulait normalement, jamais un hume ne guida sa course. Derrière la locomotive, trois wagons seulement. Il en avait une douzaine, le jour où l'engin a quitté la gare de Tonnefoudre pour son dernier trajet. Et il y en avait toujours une douzaine lorsqu'il est arrivé en vue de cette ville fantôme. Mais... ah, mais c'est à Susanna de raconter cette histoire. Et nous l'écouterons la dire à cet homme qu'elle appelait du nom de Dean, lorsqu'il avait encore un cathète à guider. Et voici Susanna elle-même, assise telle que nous l'avons vue une fois déjà, devant le Gin Poopy Saloon. Garé près de la rampe d'attache, se trouve son destrier de chrome, qu'Eddie a surnommé le tricycle de croisière de Suzy. Elle a froid, et n'a même pas un petit pull sur le dos, mais son cœur lui dit que son attente touche à sa fin. Et comme elle espère que son cœur dise vrai, car cet endroit est hanté. Pour Susanna, la complainte du vent ressemble trop au cri de détresse des enfants qu'on amenait ici pour crâner leur corps et assassiner leur esprit. À côté de la baraque préfabriquée rouillée, la gare expérimentale de l'Arc 16, si cela vous sied de vous le rappeler, se trouvent les chevaux cyborgs gris. Quelques-uns sont encore tombés depuis notre dernière visite. Le nombre a grossi de ceux qui font cliquer leur tête d'avant en arrière, inlassablement, comme pour essayer d'apercevoir les cavaliers qui viendront les détacher. Mais cela ne se produira jamais, car les briseurs ont été libérés et rendus à leur errance, et qu'il n'y a plus besoin d'enfants pour nourrir leurs esprits surdoués. Et maintenant, regardez-vous. Voici que se produit enfin ce que la dame attend depuis le début de cette longue journée et depuis la veille aussi, et l'avant-veille aussi. Lorsque Ted Brottigan, Dinky Earnshaw et quelques autres, mais pas Chimie, qui a atteint la clairière au bout du sentier, dites grand merci, lui ont dit adieu. La porte du Dogan s'ouvre et un homme en sort. La première chose qu'elle voit, c'est qu'il ne boite plus. Puis elle remarque sa chemise et son jean neuf. Des nippes plutôt classes, mais en dehors de ça, il est aussi mal protégé du froid qu'elle. Dans ses bras, le nouveau venu porte un animal à fourrure, aux oreilles dressées. C'est déjà bien, mais le garçon qui devrait porter l'animal n'est pas là. Pas de garçon. et le cœur de la jeune femme déborde soudain de chagrin. Elle n'est pas surprise, cependant, car elle savait, de même que cet homme-là, ce chariot d'homme-là, l'aurait su, si c'était elle qui avait quitté le sentier. Elle glisse de son siège en s'aidant de ses mains, descend de la passerelle en bois et s'engage dans la rue. Elle brandit la main et l'agite au-dessus de sa tête. « Roland !» s'écrie-t-elle. « Hé, pistolero, je suis là !» Il la voit et lui rend son signe de la main. Puis il se penche pour déposer l'animal. Othée se précipite droit sur elle, d'un air très décidé, tête baissée, les oreilles aplaties en arrière sur le crâne, galopant avec la rapidité et la grâce bondissante d'une belette sur une couche de neige gelée. Alors qu'il se trouve encore à plus de 2 mètres de distance, à au moins 2 mètres, il saute en l'air, faisant flotter son ombre comme un oiseau sur la poussière tassée de la rue. Elle l'attrape comme un joueur de rugby réceptionnant un drop en cloche. Dans la force de son élan, il percute la jeune femme et le choc lui coupe une seconde le souffle et la fait rouler à terre dans un nuage de sable. Mais dès qu'elle réussit à respirer de nouveau, c'est pour éclater de rire. Et elle rit toujours en voyant les pattes avant courtaudes de l'animal reposer sur sa poitrine et ses pattes arrière sur son ventre. Les oreilles dressées, la queue en tire-bouchon, battant frénétiquement, lui léchant les joues, le nez, les yeux. « Laisse-moi respirer » s'écrie-t-elle. « Laisse-moi respirer, mon chou, ou bien tu vas me tuer ?» Elle s'entend prononcer ces paroles, pourtant si légères, et elle s'arrête brutalement. Othée s'écarte d'elle, s'assied. Lève le nez vers le trou vide et bleu du ciel et laisse échapper un long gémissement déchirant qui dit à la jeune femme tout ce qu'elle a besoin de savoir si elle ne le savait déjà. Car Othée a des manières de s'exprimer bien plus éloquentes que ces quelques mots. Elle se redresse, époussette sa chemise et une ombre s'abat sur elle. Elle lève les yeux et ne voit tout d'abord pas le visage de Roland, car sa tête est auréolée de la couronne sauvage du soleil qui se dessine derrière lui, et il est à contre-jour. Ses traits se perdent dans le noir. Mais il tend les mains. Une partie d'elle refuse de les prendre, et l'intuitez-vous ? Une partie d'elle a envie de tout plaquer là et de le laisser aller se faire pendre toute seule dans les maltères. Peu importe ce que voulait Eddie, et ce que voulait aussi Jake sans doute. Cette silhouette sombre à la tête toute nimbée de lumière l'a arrachée à une vie presque confortable. Oh oui, elle avait ses fantômes, et au moins un démon au cœur mauvais. Mais qui parmi nous n'en a pas? Il lui a d'abord fait découvrir l'amour, puis la douleur, puis l'horreur et le deuil. Autant dire que c'est allé en s'arrangeant. C'est cette main au sinistre talent qui a engendré le chagrin qu'elle porte en elle. La main de ce chevalier errant poussiéreux sorti du vieux monde dans ses vieilles bottes et une vieille machine de mort vissée à chaque hanche. Voilà des réflexions bien mélodramatiques, des images héroïques. Et cette vieille Odetta, patronne des bouges et des coups à la sauvette, leur aurait certainement éclaté de rire au visage. Mais elle a changé. Il l'a changé. Et elle se dit que si quelqu'un a droit aux pensées mélodramatiques et aux images héroïques, c'est bien Susanna, fille de Dan. Une partie d'elle voudrait le repousser. Non pour mettre fin à sa quête ou briser son courage, seule la mort saurait accomplir de tels exploits. Mais pour lui ôter du regard ces étincelles qui y pétillent toujours et le punir de son insatiable cruauté. Mais le cas est la roue à laquelle nous sommes tous attachés. Et lorsque la roue tourne, nous devons nécessairement tourner avec elle. D'abord le regard levé vers les cieux, puis de nouveau vers notre enfer intérieur, et le cerveau en feu livré à ses brasiers. Et ainsi, au lieu de se détourner... 2. Au lieu de se détourner, comme le voulait une partie d'elle, Susanna prit les mains de Roland. Il la releva, non pas sur ses pieds, car elle n'en a point, même si pour un temps il lui en fut prêté une paire, mais pour la prendre dans ses bras. Et lorsqu'il voulut lui embrasser la joue, elle tourna la tête. Aussi appuya-t-il les lèvres contre celles de la jeune femme. Qu'il comprenne qu'il n'y a pas de demi-mesure, se dit-elle en échangeant son souffle avec celui de Roland. Qu'il comprenne que si j'en suis, c'est jusqu'à la fin. Dieu me vienne en aide, je suis avec lui jusqu'à la fin. 3. Ils trouvèrent des vêtements chez Article pour dames, mode et chapeau de Fédic, mais les frusques se désagrégèrent au premier contact de leurs doigts. Les mites et les ans n'avaient rien laissé d'utilisable. Dans l'hôtel Fédic, chambre calme, bon lit, Roland découvrit un placard contenant des couvertures qui les protégeraient au moins du froid de l'après-midi. Ils s'enroulèrent dedans. La brise tomba à point pour dissiper et rendre juste supportable l'odeur de moisi qui les imprégnait. Et Susanna posa des questions au sujet de Jake pour assommer d'un grand coup la douleur immédiate. « Encore cet écrivain ?» dit-elle avec amertume en essuyant ses larmes lorsqu'il eut terminé son récit. « Qu'il aille au diable !»«
Ma hanche a lâché le... » Et Jack n'a pas hésité une seule seconde.
Roland avait failli l'appeler le garçon, parce que c'était en ces termes qu'il pensait au fils d'Elmer, alors qu'il traquait Walter. Lorsqu'il lui avait été donné une seconde chance, il s'était promis de ne jamais le refaire.
Évidemment qu'il n'a pas hésité une seconde, dit-elle en souriant. Il n'a jamais hésité. Il en avait du cran, notre Jack. Est-ce que tu as pris soin de lui? Tu as fait ce qu'il fallait? J'aimerais entendre cette partie-là.
Aussi lui raconta-t-il tout, sans oublier la promesse d'Irène Tassenbaum de planter une rose. Elle hocha la tête, puis dit
« Je regrette qu'on n'ait pas pu faire la même chose pour ton ami Chimmy. Il est mort dans le train. Je suis désolé, Roland. »
Roland opina. Il aurait rêvé d'avoir du tabac, mais il était épuisé depuis longtemps. Il avait récupéré ses deux pistolets et il restait 7 orizas pour faire bonne mesure. En dehors de cela, il se retrouvait quasiment les mains vides.
« Est-ce qu'il a fallu qu'il le refasse pour que vous veniez ici ? Je suppose que oui. Je savais bien qu'une tentative de plus pouvait le tuer. » Ça et Brottigan le savaient lui aussi, ainsi que Dinky.
Mais ce n'est pas ça qui l'a tué, Roland. C'est son pied.
Le pistolero la regarda sans comprendre.
Il s'est coupé sur un morceau de verre pendant la bataille au Paradis Bleu, et l'air et la poussière là-bas, c'était du poison.
C'est d'état qui avait aboyé les derniers mots avec un accent tellement marqué que le pistolero eut du mal à comprendre. Posant.
Son foutu pied a doublé de volume. Ses orteils avaient l'air de saucisse, et puis ses joues et son cou sont devenus tout noirs, comme s'il avait un bleu gigantesque. Il a eu la fièvre.
Elle inspira profondément, resserrant autour d'elle ses deux couvertures.
Il s'est mis à délirer, mais il a retrouvé ses esprits sur la fin. Il a parlé de toi et de Suzanne Delgado. Il en parlait avec tellement d'amour et de regret.
Elle marqua une pause puis explosa.
« On va aller là-bas, Roland. On va y aller, et si elle n'en vaut pas la peine, ta tour, on se débrouillera pour qu'elle vaille le coup. »«
On va y aller, » dit-il. « On va trouver cette tour sombre, et rien ne nous arrêtera. » Et avant d'entrer, nous prononcerons leur nom, celui de tous les disparus.
« Ta liste sera plus longue, » fit remarquer Susanna, « mais la mienne le sera déjà bien assez. »
Roland ne répondit rien. En revanche, le robot bonimenteur, sans doute tiré de son long sommeil par le son de leur voix, ne s'en priva pas.
« Des filles, des filles, des filles !»
se mit-il à brailler depuis l'intérieur d'un bar. « Des humaines, des robots, on s'en fiche. Qu'est-ce que ça peut faire? On voit pas la différence. » Il marqua une pause, puis il aboya son mot ultime. « Satisfaction !» et se tut.
« Par les dieux, voici un endroit bien triste, » dit Roland. « Nous y passerons la nuit, et ensuite nous partirons pour ne plus jamais y revenir. »
Au moins le soleil est levé, et c'est un soulagement après tonne foudre. Mais ce qu'il fait froid!
Il acquiesça, puis demanda des nouvelles des autres.
Ils ont poussé plus loin, expliqua-t-elle, mais l'espace d'une seconde, j'ai cru qu'aucun de nous n'arriverait nulle part, si ce n'est au fond de cette crevasse là-bas.
Du doigt, elle désigna l'extrémité de la rue principale de Fédic, au-delà des remparts du château.
Il y a des écrans de télé encore en état de marche dans certaines voitures, et en montant vers la ville, on a eu une jolie vue sur le pont écroulé. On voyait les deux montants de chaque côté, mais le gouffre entre les deux devait mesurer plus de 100 mètres de long. On apercevait aussi le chevalet du train, qui était resté intact. Le train commençait déjà à ralentir, mais pas assez pour qu'on puisse sauter en route. On n'avait pas le temps, et le saut lui-même aurait sans doute été fatal. On avançait à, oh, je dirais 80 km/h, et dès qu'on est arrivé sur le chevalet, ce foutu engin s'est mis à gémir et à grogner. Le train faisait de la musique. Comme Blaine, tu te rappelles?
Oui.
Mais malgré le boucan, on entendait le chevalet prêt à lâcher. Puis tout s'est mis à trembler de droite à gauche. Et une voix, très calme et apaisante, nous a dit « Nous traversons actuellement une zone de turbulence mineure. Veuillez regagner vos sièges. » Dinky tenait cette petite fille russe, Dani. Ted m'a pris la main en disant
« Je tiens à vous dire, madame, que ce fut un plaisir de vous connaître. »
On a fait une embardée vers l'avant, tellement violente que j'ai bien failli me faire éjecter de mon siège. Et c'est ce qui se serait produit si Ted ne m'avait pas retenu. Et je me suis dit, ça y est, c'est fini. Je vous en prie, mon Dieu, faites que je meure avant que ce qu'il y a en dessous me plante ses dents dans le ventre. Et pendant une seconde ou deux, on est allé en marche arrière. En marche arrière, Roland. Je voyais tout le wagon, on se trouvait juste derrière la locomotive, tremblé et brinque-ballé. On a entendu un fracas de métal froissé. Puis ce bon vieux esprit de Topeka nous a fait une petite pointe de vitesse. On pourra dire ce qu'on veut des grands anciens, je sais qu'ils ont fait pas mal de gaffes, mais il faut leur reconnaître qu'ils ont construit des machines qui ont des couilles. Ensuite, tout ce dont je me souviens, c'est de notre entrée en gare, et cette même voix apaisante qui nous recommandait cette fois-ci de bien nous assurer que nous n'avions pas oublié des faits personnels. Notre Guna, tu intuites? Comme si on était sur un foutu vol de la TWA à destination de Plugzouille-les-Oies. Ce n'est qu'une fois sur le quai qu'on a pu constater que les 9 autres wagons avaient disparu. Dieu merci, ils étaient tous vides.
Elle lança un regard sévère, mais apeuré, en direction du bout de la rue.
Si seulement cette chose au fond pouvait s'étouffer dessus.
Puis son visage s'éclaira.
Il y a un point positif. À une vitesse de 400 km/h, la voix synthétique « Est-ce qu'on n'est pas bien là ?» nous donnait régulièrement des infos sur les conditions de voyage. Il y a de grandes chances qu'on ait laissé mettre l'araignée le nez dans la poussière.
« Je ne compterai pas là-dessus pour ma part, »
commenta Roland. Elle roula les yeux avec lassitude.
« Ne me dis pas une chose pareille. »«
Pourtant, je te le dis. Mais on s'occupera de Mordred leur venue, et je ne crois pas que ce soit pour aujourd'hui. »«
Bien. »«
Est-ce que tu es retourné sous le Dogan ? J'imagine que oui. »
Susanna écarquilla les yeux.
C'est quelque chose, pas vrai? À côté, la gare de Grand Central a l'air d'un passage à niveau dans un bled paumé. Combien de temps il t'a fallu pour réussir à remonter?
Si ça n'avait tenu qu'à moi, je serais encore en train d'errer là-dessous, reconnut Roland. C'est O.T. qui a trouvé la sortie. Il suivait ta piste, j'imagine.
Susanna parut y réfléchir.
Peut-être, mais plutôt celle de Jack, je dirais. Est-ce que vous avez traversé un passage très large avec un message au mur disant « passe orange seulement, passe bleu non valide »
Roland te fit oui de la tête, mais le message ne lui avait pas dit grand-chose. Il avait identifié ce passage comme étant celui emprunté par les loups au début de leurs équipées en apercevant deux chevaux gris immobiles, plus loin, ainsi qu'un masque, au rictus effrayant. Il avait aussi retrouvé un mocassin immédiatement reconnaissable, fait de chutes de caoutchouc. Celui de Ted ou de Dinky, s'était-il dit. Jimmy Ruiz avait sans doute été enterré avec les siens au pied.
« Alors, reprit Roland, vous êtes descendu du train. Vous étiez combien ?»«
5, sans Jimmy. Moi, Ted, Dinky, Danny Rostov et Fred Worthington. Tu vois qui est Fred ?»
Roland acquiesça, l'homme en costume de banquier.
« Je leur ai fait une visite guidée du Dogan. Autant que j'ai pu, je veux dire. » Les lits sur lesquels ils allongeaient les enfants pour leur récurer le cerveau et celui où Mia a donné naissance à son monstre. Et la porte à sens unique entre Fédic et le cochon du Sud à New York, celle toujours en état de marche. Et aussi les appartements de Nigel. Ted et ses amis ont été particulièrement impressionnés par la rotonde sur laquelle donnent toutes les portes. Notamment celle qui retourne à Dallas en 1963, quand le président Kennedy s'est fait tuer. On a trouvé une autre porte, deux étages plus bas. C'est là que se trouve la majorité des passages, qui va au Ford Theater au moment de l'assassinat du président Lincoln en 1865. Il y a même une affiche de la pièce à laquelle il assistait quand il s'est fait abattre par Booth. Oh, American Cousin, ça s'appelait. Quel genre de gens ont envie d'aller voir des choses pareilles?
Roland se dit qu'il y en avait des tas, en fait, mais garda cette remarque pour lui.
Tout est très vieux, mais il y fait très chaud. Et ça fout une putain de trouille, si tu veux savoir la vérité. La plupart du matériel est hors d'état, et il y a des flaques d'eau et d'huile, et de Dieu sait quoi d'autre. Certaines étaient même fluorescentes, et Dinky disait que c'était peut-être à cause des radiations. Je préfère ne pas réfléchir à ce que j'ai accumulé dans mes os ou au moment où mes cheveux vont se mettre à tomber. Derrière certaines des portes, on entendait cet horrible carillon, celui qui fait grincer des dents.
Le carillon du Vahadash.
Ouais. Et il y avait des choses, derrière les portes aussi, des trucs glissants. C'est toi ou c'est Mia qui m'a dit que les ténèbres Vahadash grouillent de monstres?
C'est peut-être moi.
Et les dieux savaient qu'il avait dit vrai.
Il y a aussi des choses dans cette grosse crevasse à la sortie de la ville. C'est Mia qui me l'a dit. Des monstres qui causent, qui entourloupent, qui se multiplient et qui complotent pour s'échapper, elle a dit. Et alors Ted, Dinky et Danny se sont donné la main. Ils ont fait ce que Ted appelait le petit bon esprit. Je le ressentais, même si je n'étais pas dans leur cercle. Et j'étais heureuse de le ressentir, parce que c'est franchement à faire froid dans le dos, ce coin.
Elle resserra une nouvelle fois ses couvertures autour d'elle.
Je n'ai pas hâte d'y retourner.
Mais tu penses qu'il le faut, qu'on doit y retourner?
Il y a un passage qui court profond sous le château et qui ressort de l'autre côté, dans la Discordia. Ted et ses amis l'ont localisé en allant récolter de vieilles pensées, ce que Ted appelait des pensées fantômes. Fred avait un morceau de craie dans la poche et il m'a tout écrit, mais ça reste difficile à retrouver. Là-bas, en dessous, ça ressemble au labyrinthe dans une vieille histoire grecque, celle où ce monstre de taureau est censé galoper. Je suppose qu'on peut le retrouver.
Roland se baissa pour caresser la fourrure rêche dotée.
On le trouvera. Ce bonhomme va remonter ta piste. Pas vrai, Othé?
Othé leva vers lui ses yeux cerclés d'or, mais ne dit rien.
Bref,
reprit Susanna.
Ted et ses compères sont entrés en contact avec l'esprit des choses qui vivent dans la crevasse, en dehors de la ville. Ils ne l'ont pas fait exprès, mais ça s'est produit. Ces choses ne sont ni du côté du roi cramoisi, ni contre nous. Elles ne luttent que pour elles-mêmes, mais elles pensent. Et elles sont télépathes. Elles savaient qu'on était là, et une fois le contact établi, elles étaient contentes de palabrer. Ted et ses amis disent qu'elles creusent leur galerie vers les catacombes, situées sous la gare expérimentale, depuis bien bien long. Et aujourd'hui, elles sont sur le point d'y arriver. Une fois qu'elles auront percé leur tunnel, elles seront libres d'errer où bon leur semblera.
Roland considéra cette hypothèse pendant quelques instants, en silence, se balançant d'avant en arrière sur les talons éculés de ses bottes. Il espérait que Susanna et lui seraient loin quand ça se produirait. Mais ça serait peut-être avant l'arrivée de Mordred, et ce bâtard devrait les affronter s'il voulait poursuivre son chemin. Bébé Mordred contre les monstres ancestraux tapis sous terre, un vrai bonheur, rien que de l'imaginer. D'un signe de tête, il finit par enjoindre Susanna de poursuivre.
« On a entendu le carillon du Vahadash monter de certains des passages aussi, non pas juste derrière les portes, mais de passages qui n'avaient même pas de portes. Tu vois ce que ça veut dire ?»
Roland te voyait bien, oui. S'il se trompait, ou si Ted et ses amis s'étaient mépris sur le passage à emprunter et qu'ils avaient marqué à la craie. Susanna, Othé et lui disparaîtraient très vraisemblablement à tout jamais au lieu de ressortir de l'autre côté de Château Discordia.
Ils ne voulaient pas me laisser en bas. Ils m'ont raccompagné jusqu'à l'infirmerie avant de reprendre leur route à eux, et j'en étais fichtrement contente. Je n'avais pas hâte de me retrouver toute seule, même si j'imagine que je m'en serais sortie.
Roland lui passa le bras autour des épaules et la serra contre lui. Leur projet, c'était d'utiliser la porte empruntée autrefois par les loups.
Celle au bout du couloir passe orange. Ils vont ressortir là où atterrissaient les loups. Ils chercheront la Waille, puis ils la traverseront et pousseront jusqu'à Calabrin Sturgis. Les Folken de la Cala les accueilleront, pas vrai?
Oui.
Et une fois qu'ils auront entendu toute l'histoire, ils ne vont pas les lyncher, je ne sais pas.
Je suis certain que non. Enchik saura qu'ils disent la vérité, et il les défendra même s'il doit être le seul.
Ils espèrent pouvoir se servir de la grotte des voix pour retourner côté Amérique.
Elle soupira.
Je leur souhaite que ça marche, mais j'ai des doutes.
Roland aussi en avait. Mais ils étaient puissants tous les quatre, et Ted l'avait marqué. Il avait vu en lui un homme d'une détermination hors du commun, avec des ressources extraordinaires. Les Manis étaient puissants eux aussi, à leur manière, et c'étaient de grands voyageurs entre les mondes. Ils pensaient que, tôt ou tard, Ted et ses compagnons réussiraient bel et bien à retourner en Amérique. Il envisagea de répondre à Susanna que ça se produirait si telle était la volonté du Ka. Puis il se ravisa. Ka n'était pas son mot préféré ces derniers temps, et il pouvait difficilement le lui reprocher.
« Maintenant écoute-moi bien et réfléchis attentivement, Susanna. Est-ce que le mot « dans de l'eau » t'évoque quoi que ce soit ?»
Othé leva la tête, les yeux brillants. La jeune femme y réfléchit.
Ça me rappelle très vaguement quelque chose. Mais je n'arrive pas à faire mieux que ça. Pourquoi ?
Roland lui dit ce qu'il en pensait. Qu'alors qu'Eddie gisait mourant, il avait reçu une sorte de vision concernant une chose, ou un lieu, ou même une personne. Quelque chose du nom de Dent de l'eau. Eddie a transmis ça à Jack. Jack l'a transmis à Othé, et Othé l'a transmis à Roland. Susanna fronça les sourcils d'un air dubitatif.
Il a peut-être un peu trop circulé. Ça me rappelle ce jeu quand j'étais petite. Chuchoti, chuchota, ça s'appelait. Le premier gosse pensait à un mot ou à une expression et il le chuchotait à l'oreille de son voisin. On ne pouvait l'entendre qu'une fois, pas le droit de le répéter. Le gamin faisait passer ce qu'il avait entendu et ainsi de suite. Le temps que le mot arrive jusqu'au dernier, au bout de la rangée, c'était devenu complètement autre chose, et tout le monde était bon pour une sacrée rigolade. Mais si celui-ci n'est pas le bon, je ne suis pas sûr que ça nous fera mourir de rire.
« Eh bien, » dit Rallant, « on gardera l'œil ouvert, en espérant que je ne me sois pas trompé. Il se peut que ça ne veuille rien dire du tout. » Mais il n'y croyait pas vraiment.
« Pour les vêtements, comment on va faire s'il se met à faire plus froid ?»
demanda-t-elle. « On fabriquera ce dont on aura besoin. Je sais comment. C'est d'autre chose qu'il nous faut nous inquiéter aujourd'hui. Ce qui est vraiment urgent, c'est de se trouver quelque chose à manger. Au pire, on doit pouvoir dénicher le garde-manger de Nigel.
Je ne veux retourner sous le Dogan que si on n'a vraiment pas d'autre solution, » dit Susanna. Il doit y avoir des cuisines près de l'infirmerie. Il fallait bien qu'il donne quelque chose à manger à ses pauvres enfants. »
Rallant y réfléchit, puis hocha la tête. C'était une bonne idée.
« Allons-y maintenant, » dit-elle. « Je ne veux même pas me retrouver au dernier étage de ce truc à la nuit tombée. »
4. Sur le chemin du dos de la tortue, au mois d'août de l'année 2002, Stephen King s'extirpe d'un rêve éveillé. Il pensait à Fedik. Il tape. « Je ne veux même pas me retrouver au dernier étage de ce truc à la nuit tombée. » Les mots apparaissent sous ses yeux, sur l'écran. C'est la fin de ce qu'il appelle un sous-chapitre, mais ça ne signifie pas forcément qu'il a terminé pour aujourd'hui. Tout dépend de ce qu'il entend. Ou, pour être plus précis, de ce qu'il n'entend pas. Il est à l'écoute du Veskagan, le chant de la tortue. Cette fois, il semble que la musique, faible certains jours, tonitruante, presque assourdissante à d'autres moments, ait cessé. Elle reviendra demain. Jusqu'ici, du moins, elle est toujours revenue. Il appuie en même temps sur les touches « CTRL » et « S ». L'ordinateur fait son petit bip pour indiquer que le travail d'aujourd'hui est sauvegardé. Alors Stephen King se lève en grimaçant à cause de la douleur dans sa hanche et se rend à la fenêtre de son bureau. Il jette un œil à l'allée dehors, qui monte raide jusqu'à la route, où désormais il se promène rarement, et sur la route principale, la 7, plus jamais. Sa hanche le fait terriblement souffrir ce matin, et les gros muscles de sa cuisse sont en feu. Debout près de la fenêtre, il se frotte la hanche d'un air absent. « Rallant, espèce de salopard, tu m'as rendu la douleur !» se dit-il. Elle court tout le long de sa jambe droite, comme un câble incandescent. « Faites-moi donc un petit amen, un petit bombe divine, et c'est lui qui se retrouve comme une andouille maintenant. » Il s'est passé 3 ans depuis l'accident qui a failli lui coûter la vie, et la douleur est toujours là. Moins vive à présent, car le corps humain abrite un moteur de guérison surpuissant, un surmoteur, se dit-il en souriant. Mais parfois c'est encore dur. Il n'y pense pas beaucoup tant qu'il écrit. Écrire est comme une sorte de va-à-dash bienfaisant, mais il se retrouve tout raidi après quelques heures assis à son bureau. Il pense à Jake. Il est effondré que Jake ait dû mourir, et il se dit que, quand son dernier livre sera publié, les lecteurs vont être furax. Et ça se comprend, non? Pour certains, ils connaissent Jake Chambers depuis 20 ans, soit presque 2 fois la durée de vie du garçon. Oh ça, ils vont être furax. Et quand il répondra à leurs lettres pour leur dire qu'il est aussi désolé qu'eux, aussi surpris, vont-ils seulement le croire? Je parierai pas un copec là-dessus, comme aurait dit son grand-père. Il repense à Misery. Quand Annie Wilkes traite Paul Sheldon de sale gosse gâté parce qu'il essaie de se débarrasser de cette crétine patentée de Misery Chastain, Annie hurle que c'est Paul l'écrivain. Et que l'écrivain est Dieu pour ses personnages, et qu'il n'est pas obligé d'en tuer un seul s'il n'en a pas envie. Sauf qu'il n'est pas Dieu, du moins pas dans ce cas précis. Il le sait fichtrement bien que Jake Chambers n'était pas là le jour de son accident, et Roland Deschaine non plus d'ailleurs. C'est risible comme idée, ils ne sont pas réels, nom de Dieu. Mais il sait aussi qu'à un moment, alors qu'il était assis derrière son Mac dernier cri, le chant qu'il entend est devenu le chant funèbre de Jake, et que s'il l'avait ignoré, il aurait totalement perdu le contact avec le Vescagan, et il ne doit pas prendre ce risque. Pas s'il veut finir. Ce chant, c'est le seul fil directeur qu'il possède, la piste faite de miettes de pain qu'il lui faut suivre s'il veut émerger de cette forêt déroutante d'intrigues qu'il a plantée et... Tu es bien sûr que c'est toi qui l'as plantée? Eh bien, pour tout dire, il n'est sûr de rien. Autant appeler directement les types en blouse blanche pour qu'ils viennent l'embarquer. Et qu'est-ce qui te permet d'être absolument certain que Jake n'était pas là ce jour-là? Après tout, tu te rappelles quoi exactement de ce foutu accident? Pas grand-chose. Il revoit le toit de la camionnette de Brian Smith qui apparaît à l'horizon. Il se rappelle qu'il se dit qu'il ne roule pas sur la route, là où il devrait, mais sur le bas-côté gauche. Après ça, il se rappelle Smith assis sur un muret de pierre en train de le regarder, lui disant qu'il a la jambe cassée au moins en 6, peut-être même en 7. Mais entre ces deux souvenirs-là, celui de l'approche et celui juste après l'impact, la pellicule de sa mémoire a brûlé. Ou presque brûlé. Mais parfois, la nuit, lorsqu'il se réveille de rêves qu'il ne se rappelle pas complètement, parfois il y a, eh bien, parfois il y a des voix, lâche-t-il. Pourquoi tu ne le dis pas simplement? Puis en riant, c'est ce que je viens de faire, il me semble. Il entend le cliquetis de griffes dans le couloir et Marlowe pointe sa longue truffe par la porte du bureau. C'est un Welsh Corgi, court sur pattes avec de grandes oreilles, et plus tout jeune maintenant, avec ses douleurs et ses rhumatismes, sans parler de l'œil qu'il a perdu l'année dernière des suites d'un cancer. Le veto avait dit qu'il ne s'en remettrait probablement pas, et pourtant si. Un sacré bon gars, un sacré dur. Et lorsqu'il relève la tête de sa ligne de mire au ras du sol et qu'il regarde l'écrivain, il arbore son bon vieux rictus de filou. « Comment va, mec ?» semble dire ce regard. « Bien travaillé aujourd'hui ? Ça boum ?»« Ça va bien, » répond-il à Marlowe. « Je m'accroche. Et toi, comment va ?» Pour toute réponse, Marlowe, aussi connu sous l'appellation de Monsieur Museau, secoue son arrière-train perclu d'arthrite. « Encore vous ?» Voilà ce que je lui ai dit, et il a demandé « Vous vous souvenez de moi ?» Ou peut-être que c'était « Vous vous souvenez de moi ?» Je lui ai dit que j'avais soif. Il a répondu qu'il était désolé, mais qu'il n'avait rien à boire, et je l'ai traité de menteur. Et j'avais bien raison de le traiter de menteur, parce qu'il n'était pas désolé du tout. Il s'en foutait comme de sa première chemise que je crève de soif, parce que Jake était mort et qu'il essayait de me mettre ça sur le dos. Ce salopard a essayé de me mettre ça sur le dos. Sauf que tout ça n'est jamais arrivé, dit King à voix haute, en regardant Marlowe se diriger en se dandinant vers la cuisine, où il va faire une dernière inspection de sa gamelle avant de sombrer dans un de ses sommes de plus en plus longs. Ils ne sont que tous les deux, dans la maison, et dans ces cas-là, ils parlent souvent tout seuls. Je veux dire, tu le sais, pas vrai, que tout ça n'est jamais arrivé? Oui, sans doute. Mais c'était tellement bizarre de voir Jake mourir comme ça. Jake apparaît dans toutes ses notes, et ça n'a rien de surprenant, parce que Jake était censé être là jusqu'à la dernière minute. Ils étaient tous censés être là, en fait. Évidemment, il n'y a pas d'histoire, hormis les mauvaises, celles qui sont grillées d'avance, qui soient complètement sous le contrôle de l'auteur, mais celle-là est tellement hors contrôle que ça en devient ridicule. C'est vraiment comme s'il assistait à une scène en train de se dérouler, ou qu'il écoutait un chant, beaucoup plus que s'il était en train de l'inventer, cette fichue histoire.
Il décide de se faire un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture pour déjeuner et d'oublier tout ce fichu bazar pour aujourd'hui. Ce soir, il ira voir le dernier film de Clint Eastwood, « Créance de sang », et il se réjouit de pouvoir sortir et faire quelque chose. Demain, il sera de retour à son bureau et un détail du film se glissera peut-être dans son récit, parce que Roland avait quelque chose de Clint Eastwood dès le départ. L'homme sans nom de Sergio Leone. Et, en parlant de livres, sur la table basse, il aperçoit celui qui est arrivé par FedEx de son bureau de Bangor ce matin même. Œuvre poétique complète de Robert Browning. On y trouve évidemment le chevalier Roland s'en vint à la tour noire, le poème narratif qui a inspiré cette longue et éprouvante histoire. Il lui vient souvent une idée qui lui met sur le visage une expression à deux doigts du fou rire, comme s'il lisait dans ses pensées. Ce qui est plausible, King a toujours pensé que les chiens sont des émigrés plutôt récents de cette grande terre d'Empatica, aussi surnommée « Je vois très bien ce que tu ressens ». Marlowe découvre un peu plus les dents en un grand sourire taquin. « Une seule place pour ce poème, mon vieux ». Dit-il en lançant le livre sur la table basse. C'est un pavé, et il atterrit avec un bruit mat. Une place, et une seule. Puis il se cale plus confortablement dans son fauteuil et ferme les yeux. Je vais juste rester assis une minute ou deux, se dit-il, en sachant parfaitement qu'il se leurre lui-même, en sachant qu'il va très probablement se mettre à somnoler. Et c'est ce qu'il fait.